Est-ce que vous êtes prêts qu'ils vont avoir un bon temps dans leur classe, que l'onction de Dieu est sur ceux qui vont les enseigner au nom de Jésus? Moi, je crois que qu'est-ce qui se passe avec les enfants, c'est aussi important que qu'est-ce qui se passe avec les adultes ici. J'y crois et je suis convaincu que, moi, je sais que sans aucun doute que l'Esprit de Dieu et l'onction de Dieu est aussi présent dans les classes avec les enfants qu'avec nous. Alléluia! Bon, j'espère que vous êtes prêts à recevoir la parole parce que je suis prêt à la donner. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre déclaration parce que la Bible dit que ce qu'on dit avec notre bouche, ce qu'on croit avec notre cœur s'accomplit. Et qu'est-ce qu'on aime faire ici, c'est de faire une déclaration avant de recevoir le message. Donc, si vous avez une Bible avec vous, ou sinon, si vous avez une feuille qu'on vous a donnée avec les versets, on va prendre ça entre nos mains et on va faire cette déclaration. Voici ma Bible.
Voici ma Bible.
On fait plus fort. Voici ma Bible.
Voici ma Bible.
C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais changé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 3. Ce matin, on va continuer notre série qu'on a commencé la semaine passée sur la victoire est dans votre bouche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu de victoire dans leur vie? Que ce soit au niveau de votre santé, de votre état financier, de vos relations avec votre famille, ou peu importe. Savez-vous que la victoire est dans votre bouche, ou on peut dire aussi que la défaite est dans votre bouche? Ce que vous dites va déterminer votre état ici sur la terre. Et ce que vous dites et ce que vous croyez dans votre cœur va déterminer votre demeure éternelle aussi. Savez-vous que la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. C'est-à-dire que si tu ne dis pas avec ta bouche, si tu ne confesses pas avec ta bouche, si tu ne crois pas dans ton cœur, que tu ne seras pas sauvé. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai pour ce qui concerne le salut, c'est vrai aussi pour toutes les autres choses que Dieu nous a promis. Parce que Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa parole. Il n'a pas juste promis de nous sauver de nos péchés. Il a promis aussi de nous délivrer de la maladie. Il a promis de nous délivrer de la pauvreté. Toutes ces choses qu'il a promis sont déclenchées, sont reçues par la foi. Et la foi agit de cette façon. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tout le monde dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce que vous croyez va sortir de votre bouche, et ce que vous croyez et vous dites s'accomplira. C'est une loi spirituelle, c'est un fait. Et on va voir ici en Jacques chapitre 3, les choses qui sont tellement fortes et puissantes concernant la puissance de la langue. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur pour recevoir, parce que si vous comprenez ce message et vous mettez ce message en pratique, ça va changer votre vie. Là où vous avez eu des échecs, vous allez commencer à voir les victoires. Amen. Jacques chapitre 3, verset 1 dit ceci. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et ça, c'est vrai. Mais verset 2 dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Voulez-vous être un homme, une femme parfaite ou parfaite? Ici la clé. Si un homme ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Et ça continue, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Comment on dit leur corps tout entier? Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tu peux souligner cette phrase, à l'image de Dieu, c'est important. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus reproduire de l'eau douce. Wow, c'est fort, hein? Mais ici, on voit jusqu'à quel point la langue est importante. En fait, il y a 5 choses que j'ai marquées ça dans vos notes. On va faire un peu plus d'une étude ce matin, mais c'est important que vous saisissiez ces vérités. Parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne mettez pas ces principes en pratique, vous allez vivre dans les échecs tout au long de votre jour, de vos jours ici sur la terre. Vous serez frustrés, déçus et vaincus dans votre vie chrétienne. Mais si vous prenez la parole ce matin et vous mettez ça en pratique comme il faut, vous allez vivre dans la victoire, dans la joie, dans l'abondance. Donc, c'est à vous de choisir l'échec ou le succès, hein? La santé ou la maladie, la prospérité ou la pauvreté. Ces choses sont à vous, comme c'était à nous de choisir l'enfer ou le ciel. On a choisi le ciel en choisissant Jésus et en confessant avec notre bouche et en croyant de notre cœur. Et on choisit toutes ces bénédictions de la même façon. Amen. Donc, Père, au nom de Jésus, je prie que tu puisses ouvrir nos cœurs aujourd'hui, que nos yeux spirituels soient illuminés, pour qu'on puisse voir avec clarté la réalité de cette parole, pour qu'on puisse avoir la sagesse pour mettre cette parole en pratique, afin de pouvoir déclencher nos miracles et déclencher la victoire dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quelles sont les choses qu'on voit dans ces versets qui sont si importantes à saisir? Quelques principes qu'on voit. Premièrement, dans vos notes, c'est marqué que nos paroles sont la marque de notre maturité. Voulez-vous savoir si un homme ou une femme dans le Seigneur est vraiment mûr et mature? Une façon importante. Premièrement, on sait qu'on est passé de la mort à la vie parce qu'on aime les frères. Si on a de l'amour réciproque les uns pour les autres, ça c'est vraiment la marque suprême. Mais une autre marque de la maturité chez les chrétiens, c'est quelqu'un qui est capable et qui ne branche pas dans ses paroles, c'est un homme parfait. Le mot parfait veut dire mature, complet. C'est un homme fait, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a grandi dans le Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce qui sort de ma bouche, qu'est-ce qui sort de votre bouche va me montrer. Est-ce que la personne connaît vraiment le Seigneur ou non? Je peux savoir, c'est pas juste s'il connaît le Seigneur, mais est-ce que la personne est enracinée dans le Seigneur? Est-ce que la personne connaît la parole? Parce que si je suis avec un chrétien et la personne est toujours en train de sacrer, toujours en train de dire des choses vulgaires, des choses qui sont pas correctes, je sais déjà, c'est pas quelqu'un qui est tellement branché. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. De la même façon, si je suis avec un chrétien et la personne commence à parler en mal de ses frères ou de ses sœurs, commence à critiquer, commence à parler dans le dos des personnes, je sais tout de suite, c'est une personne qui manque de la maturité. C'est une personne qui a besoin de grandir plus. C'est une personne qui a besoin de connaître le Seigneur plus. Parce qu'une personne qui est mature, une personne qui est parfaite dans le Seigneur, parle pas dans le dos de quelqu'un d'autre. Amen? qu'on peut entendre la façon qu'un homme et une femme parlent avec son épouse, son mari, ses enfants. Et si on est toujours bête, si on est toujours en train de critiquer ou de diminuer une personne, on sait, c'est une personne qui manque de la maturité. Amen? Donc, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce qui sort de votre bouche va nous marquer? Ça va nous distinguer, ça va montrer, est-ce que c'est une personne mûre, mature, ou est-ce que c'est un bébé dans le Seigneur? Est-ce que c'est un homme et une femme charnelle dans le Seigneur? Nos paroles sont importantes. Si je suis avec un chrétien et il parle toujours, « Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Oh, je ne sais vraiment pas comment je vais arriver. » Oh, et la personne parle négative, parle doute, incrédulité, crainte, peur. Si ce sont les paroles de mort, de crainte, de peur, d'incrédulité qui sortent de la bouche, on sait. C'est pas une personne forcément méchante, mais c'est une personne qui manque la maturité dans le Seigneur. Amen? Est-ce que vous êtes là? Donc, c'est pas forcément à moi de juger mes frères et mes sœurs. C'est pas à vous de me juger ou de juger vos frères et vos sœurs et de dire, oh, mais là, devenir les policiers des paroles. Hein? Parce qu'il y en a, il y a des personnes qui vont dire, « Oh, dis pas ça, dis pas ça! Tu devrais pas dire ça! » Mais laisse-moi vous dire, voici le problème. Vous savez que il y a quelques années, on voyait ça souvent dans les églises. Quelqu'un disait, « Oh, je pense que je vais crever de faim! » Dis pas ça, c'est pas une bonne confession! Hein? Le problème, ou si quelqu'un dit, « Oh, je suis malade, je suis fatigué, et c'est bon, dis pas ça, dis pas ça! » Si la personne le dit ou pas, c'est pas juste ça qui compte. C'est qu'est-ce qu'on dit avec la bouche et qu'est-ce qu'on croit dans notre cœur. Donc, on serait mieux de prier pour la personne et aider la personne à mieux connaître le Seigneur, mieux connaître la parole de Dieu. Pas juste changer sa langage, mais changer son cœur. Parce que le vrai problème, la racine, c'est dans le cœur. C'est pas juste un problème de parole, c'est un problème du cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. On va le dire ensemble. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est dans mon cœur va sortir de ma bouche. Et c'est pourquoi c'est vraiment un moyen pour nous de s'examiner. Ce n'est pas à moi de vous examiner forcément. Ce n'est pas forcément à vous de m'examiner. Qu'est-ce qui est primordial, c'est que je m'examine moi-même. Il faut que j'écoute mes propres paroles. Il faut que je sache c'est quoi qui sort de ma bouche parce que ça va indiquer ce qui est dans mon cœur et ça va me montrer mon niveau de maturité dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Mais regardons bien. On a dit que si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, verset 3, si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. Tout le monde dit leur corps entier. Deuxième chose dans vos notes, c'est que notre langue nous permet de contrôler tout notre corps. Je commençais à avoir une révélation là-dessus. Parce que vous savez que souvent, on a des grands problèmes, même parmi les chrétiens, avec la maîtrise de soi. Est-ce que vous avez remarqué? Il y a des personnes qui ne savent pas maîtriser leur corps. Ils ne savent pas maîtriser leurs appétits, que ce soit pour le sexe, que ce soit pour l'alcool, la drogue, que ce soit pour autre chose qui ne sont pas forcément mauvais en eux-mêmes, mais qui sont souvent abusés. Il y a des personnes qui dorment trop, il y a des personnes qui mangent trop, il y a des personnes, vois-tu, qui ont de la misère à contrôler leur corps. Mais la Bible dit que le fruit de l'esprit, en Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la patience, la bénignité, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi est compris dans la liste des caractéristiques du fruit de l'esprit. Savez-vous que la maîtrise de soi, c'est pas une chose qu'on a besoin de fabriquer, c'est une chose que Dieu a plantée dans notre esprit lors de la nouvelle naissance. Quand j'ai confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, le fruit de l'Esprit Saint a été, sous forme de semence, planté dans mon cœur. Et la maîtrise de soi fait partie de ma nature. Amen? Mais, ici on voit que c'est la langue qui va nous rendre capables de contrôler tout notre corps. contrôler le corps, se maîtriser, la maîtrise de soi, contrôler le corps, ces choses, c'est la même affaire, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu vois le principe? En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est qu'il faut croire que la maîtrise de soi fut plantée dans ton esprit et il faut le dire avec ta bouche. Parce que si tu le confesses avec ta bouche, ça va relâcher la puissance de la maîtrise de soi dans ta vie et tu serais capable de te maîtriser. Amen? Il faut que tu commences à méditer cela et dire, Seigneur, merci que je suis ma nature, c'est une nature d'amour et je suis capable de me maîtriser. Je ne suis pas obligé, je ne suis plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Je suis redevable à l'Esprit. L'Esprit Saint est en moi. Mais il faut le croire, il faut le dire. Les personnes qui prient, « Oh Seigneur, donne-moi plus de patience », ce n'est pas une prière biblique. Parce que la patience fait partie du fruit de l'Esprit qui est déjà dans ton cœur. Tu as besoin de prier, « Seigneur, merci que l'Esprit Saint est en moi et je suis fait dans ton image. Je suis un homme patient. Je suis une femme patiente. Je suis déjà patient dans mon homme intérieur. Mon corps a besoin de comprendre le message, mais dans mon cœur, dans le vrai moi, je suis patient. Je suis plein de bonté. Je sais me maîtriser. » Il faut le dire, il faut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il faut dire, je suis libéré de la drogue, je suis libéré de l'alcool, je suis libéré du tabac, je suis libéré de la pornographie, je suis libéré de tous ceux qui veulent contrôler mon corps, je suis libéré en Jésus-Christ. Il faut le dire avec la bouche. Et si tu parles comme ça, pas juste de temps en temps, mais sur une base régulière, tu serais capable de garder tout ton corps en bride. Amen? Mais si tu dis toujours, « Ah, mais moi, j'ai une grosse faiblesse pour ça. Oh, je suis faible dans ce domaine-là. Oh, j'ai de la misère avec ça. Oh, c'est difficile pour moi. » Savez-vous quoi? Vous êtes prisonnier. Il y a quelque chose qu'on a besoin de saisir. Quelqu'un qui est capable de tenir sa langue est capable de tenir tout son corps. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, n'est-ce pas? C'est un principe biblique, donc vous avez besoin d'une révélation. Le problème, c'est que la plupart de nous, avec notre tête, on se pose la question, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Cette petite langue-là. Si je dis quelque chose de négatif, est-ce que ça va vraiment faire une différence? Oui, ça va faire une différence. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Amen? Notre langue nous permet de contrôler tout notre corps, mais aussi nos paroles déterminent la direction de notre vie. Est-ce que vous aimez la direction que votre vie prenne aujourd'hui? Si oui, c'est parce que vous parlez des bonnes choses. Si vous n'aimez pas la direction de votre vie, il faut vérifier qu'est-ce qui sort de votre bouche. Ça va vous montrer qu'est-ce qui est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Je dis la vérité aujourd'hui. Nos paroles déterminent la direction de notre vie. Regarde bien, verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons, tout le monde dit dirigeons, aussi leur corps en tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés, tout le monde dit dirigés, par un très petit gouvernail. » Ici, vivra. Pour un si petit gouvernail, au gré du pilote. Il faut que vous sachiez, vous êtes le pilote de votre propre bateau. Amen? Imagine, hein, un vrai bateau, capitaine d'un navire qui ne s'occupe pas du... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le helm, le volant d'un bateau. On appelle ça, il y a un mot pour ça, mais... Hein? Mais la chose qui contrôle le gouvernail, c'est le gros roue, la barre. Quelqu'un qui ne s'occupe pas du bar, dit « Ah bon, mais le vent va nous amener... » Ouais, là. Ouais, c'est pas la même affaire. Quelqu'un qui ne s'occupe pas du volant, du bateau, et qui se laisse aller. Le capitaine qui dit « Bon, que sera si le vent pousse dans ce sens-là, j'y vais. » Si le vent pousse dans l'autre sens, j'y vais. Si ça tourne de bord encore une fois, je reviens. Ça, c'est comme ça, hein? La vie chrétienne pour beaucoup. Ça, c'est pas une bonne image. Mais quelqu'un qui est mature va prendre le volant et dire, OK, si je tourne le volant à droite, je vais à droite. Pourquoi? Parce que le gouvernail qui se trouve en dessous du bateau, là, ça va tourner et ça va déterminer la direction de ce bateau. On n'est pas obligé juste de prendre le ride de la vie. On détermine la direction de la vie. Comment est-ce qu'on le fait? Avec nos paroles, avec notre bouche. Je m'en souviens, j'avais 9 ans, à peu près 9 ans, 10 ans peut-être. Et la chose que j'aimais faire le plus à cet âge-là, à part jouer au baseball, parce que j'étais un peu maniaque de ça à l'époque, mais c'était de faire du cheval. J'aime ça, faire du cheval, j'en fais presque plus, mais mon grand-père avait un cheval qui s'appelait Tico. Tico, c'était un grand cheval, plus que 16 mains. Hey, c'est énorme pour un gars de 10 ans. Et j'avais même, mes jambes n'étaient pas assez longues, même pour atteindre, c'est quoi la chose dans la selle? C'est quoi? Ouais, des étriers. Donc, ma grand-mère m'a acheté une chose qui était faite juste pour les enfants, qui était courte. Je mettais ça au-dessus de la selle et j'étais capable de monter sur le cheval et pff, je partais. À tous les lundis soirs, c'est ça que je faisais à l'âge de 10 ans. Mais Tico était un cheval qui était énorme, grand et excessivement rapide. Il y avait 26 chevaux qui appartenaient à d'autres personnes. Mon grand-père avait juste un cheval, mais il y avait 26 autres chevaux. Et Tico était le plus vite de tous. Et moi, j'étais le plus petit, hein? Et Tico avait cette mauvaise habitude, parce que Tico aimait courir, surtout quand c'était le temps de retourner à l'écurie. Lui, il avait toujours hâte d'y aller. Mais il avait cette habitude, il savait quoi faire, il n'était pas stupide, c'est qu'il prenait le mort entre ses dents. OK? Il ne sait pas comment, mais il s'arrangeait pour que le mort, il était capable de mordre le mort. Et moi, je n'étais pas capable de le contrôler ni de l'arrêter. Donc, quand Tico a dit, « Bon, je vais rentrer », il mordait le mort et il s'en allait. Et laisse-moi te dire, quand tu as un cheval qui a 16 mains et tu as un petit garçon qui est haut de même, qu'est-ce que je faisais? Je m'accrochais. On y va! Et là, j'avais plus le contrôle. Moi, j'allais là où Tico voulait aller. Et pour quelques-uns de vous, vous êtes comme ça. Dans votre vie, vous allez là où la vie vous amène. Et vous suivez. Bon, que ce soit sur les sentiers de la maladie, les sentiers de la pauvreté, les sentiers des défaites, du découragement, de la dépression, toutes sortes de problèmes, vous allez, vous dites, « Oh bon, mais je vais m'accrocher !» En espérant que ça va arrêter un jour. Wow, wow! Mais j'ai appris, ça, j'ai eu peut-être 2 bons rides de même. Et j'ai dit, ça va faire. Parce que j'aime pas ça, j'aime être en contrôle de mon cheval, et vous? Donc la prochaine fois qu'il a essayé, je dis, je sais ce que je vais faire. Je suis petit, mais moi non plus, je suis pas stupide. Donc j'ai dû comme grimper un peu sur le cou de Tico, tout au galop, et j'ai pris le mort qui était entre ses dents et je l'ai arraché. Ok? Et là, j'ai pris contrôle une fois, encore une fois, de sa langue. Et dès que j'ai eu sa langue, c'est ma contrôle, mon contrôle, j'étais capable d'arrêter le cheval, de le tourner à droite, de le tourner à gauche, et c'est lui qui me suivait. Amen. Quelques-uns de vous, vous avez besoin d'arracher votre langue, de dire, ça va faire. Arrêtez de parler de même. Arrêtez de parler défaite. Arrêtez de parler manquement. Arrêtez de parler dépression. Arrêtez de parler ces choses. Prenez le contrôle de votre vie. Amen. Au lieu de dire, wow! On y va. Amen. Qu'est-ce que je dis? C'est la vérité ce matin. Nos paroles déterminent la direction de notre vie. On continue. Notre langue est petite, mais puissante. Encore une fois, des fois on pense, qu'est-ce que ça va changer si je change ma façon de parler? Ça va tout changer. Ça va changer la direction de ta vie. Ça va changer votre destinée. En fait, verset 5 dit, « De même, la langue est un petit membre. » Tu m'en dis un petit membre. « Et elle se vante de grandes choses. » Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps et enflammant le cours de la vie, étant en elle-même enflammée par la guéhenne. Donc on voit, notre langue est petite, mais il ne faut jamais mépriser la puissance de votre langue. Est-ce que vous me regardez comme il faut? Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais le dire encore ce matin. La chose que je trouve le plus décevante en tant que pasteur, c'est de voir les personnes qui ont des vrais problèmes, qui viennent me voir pour avoir du conseil, et je leur dis quoi faire. Selon la parole, méditez ces versets jusqu'au moment que ça descend dans ton cœur et tu y crois, commencez à confesser ces choses avec ta bouche. Parler à haute voix, aussi fort, il faut parler assez fort pour pouvoir t'entendre toi-même, avec tes propres oreilles. Dis ça avec ta bouche. Les personnes reviennent me voir par la suite. Je dis, OK, est-ce que tu as commencé à faire les confessions de la foi, à méditer la parole? Non, mais dans le fond, je ne vois pas un changement. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va donner? La langue est petite, mais elle est puissante. C'est Dieu qui t'a créé dans son image, à sa ressemblance. Ça donne absolument rien pour moi d'imposer les mains sur une personne, de prier pour la personne, et la personne dit « Merci Seigneur, je suis guéri », puis il sort, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, il dit « Je pense que je vais mourir, je pense que je vais mourir, je vais sûrement mourir de ça, ça va mal, je vais mourir ». Ça donne rien pour moi de prier pour une personne qui va défaire la prière avec les mauvaises confessions de sa bouche. Amen? Alors, la langue est petite, mais elle est puissante. Et la dernière chose qu'on voit qui est dans vos notes, c'est que seulement Dieu peut nous aider à dompter notre langue. Seulement Dieu peut nous aider à dompter notre langue. Verset 7, « Toutes les espèces de bêtes, on n'est pas si bêtes que ça, hein? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. » Donc on voit, aucun homme peut dompter la langue. Donc des fois, les personnes vont lire ça et dire, bon, on est sans espoir. On ne peut rien faire. On ne peut rien changer. Je vais être comme ça jusqu'à la mort. Aucun homme peut la dompter. Mais comme Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et si on demande l'aide du Saint-Esprit, on peut dompter notre langue. Amen? C'est tellement, tellement important. Et ça, c'est une chose, je vais juste dire en passant, c'est une raison pour laquelle il est tellement important d'être baptisé du Saint-Esprit et de parler en autre langue. Parce que quand je parle en langue, ma langue est soumise à 100% à la volonté de Dieu. Et je prie la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est pas la seule chose à faire. Il faut vraiment changer notre cœur d'abord, mais il faut aussi prier en notre langue. Aucun homme peut dompter la langue, mais nous sommes capables de le faire. Sinon, Dieu n'aurait pas donné les commandements, comme Éphésiens 4, 29 dit, que ne laisse aucune parole mauvaise sortir de votre bouche. Si on était dans l'impossibilité de contrôler notre langue, Dieu serait injuste de nous dire de ne pas laisser sortir de notre bouche les mauvaises paroles. Amen? C'est-à-dire que moi, en tant que chrétien, homme de Dieu, aucun homme naturel est capable de dompter sa langue. Mais un homme de l'Esprit, un homme de Dieu, un homme né de nouveau, une nouvelle créature en Jésus-Christ, il est capable de dompter sa langue avec l'aide du Saint-Esprit. Tout le monde dit, je peux le faire parce que le Seigneur est en moi et il me rend capable de dompter ma langue. Alléluia. Alléluia. C'est à vous de décider où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. Si vous êtes content de la direction de votre vie, continuez à parler et croyez comme vous croyez, parlez maintenant. Mais si vous êtes insatisfait, si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes en train de vivre le meilleur, si vous avez quelque chose dans votre esprit qui dit « il y a encore plus, il y a encore mieux que ça pour moi », est-ce qu'il y a des gens ici, moi je sais, qu'il y a encore plus pour moi? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a encore plus pour vous? Plus de bénédictions, plus de sa présence, plus de miracles? C'est ici où on commence. Hein? Deux mains, c'est bon. Deux pieds au même temps, hein? C'est bien. Comment changer la direction de votre vie? Si vous êtes tanné d'être sur le dos de votre cheval, c'est pas le ride de la vie que vous prenez, c'est le ride de la mort. Si vous êtes tanné, pas besoin de changer de cheval. Vous avez tout simplement besoin de prendre contrôle de sa langue. Trois choses pour nous aider à mettre ce message en pratique aujourd'hui. Si on veut changer la direction de notre vie, premièrement, découvrir la vision que le Seigneur veut que vous suiviez. Première chose, avant de changer la direction, ce n'est pas juste à moi de décider où je veux aller, c'est à moi de demander, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? N'est-ce pas vrai? Peut-être que vous êtes tanné de votre vie, mais c'est qu'est-ce que vous allez choisir? C'est pas forcément mieux, à moins de consulter le Seigneur et de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu as planifié? Quelle est ta vision pour ma vie? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quelle est ma raison d'être? Montre-moi ton plan pour ma vie. Si c'est le temps de retourner à l'écurie, tant mieux, on y va. Mais si c'est le temps de trouver un autre trail, un autre sentier et d'aller faire une aventure avec l'Esprit Saint, hein? Traverser les frontières que personne n'a traversées, faire les choses que personne n'a faites, on dit, OK, je vais prendre la langue de mon cheval et je vais diriger tout son corps dans ce sens-là. Et je vais suivre son plan pour ma vie. Donc, sonder les Écritures. Il y a des choses qu'on sait déjà. Si vous êtes malade, vous pouvez voir dans la parole que ce n'est pas la bonne direction à suivre. Dieu veut que vous soyez guéri. Si vous êtes dans la pauvreté, ce n'est pas la bonne direction. Dieu veut que vous soyez comblé de bénédictions. Amen? Si vous êtes déprimé, Dieu veut que vous soyez dans la joie. Amen? Donc, choisissez votre trail, on pourrait dire. Choisissez votre sentier dans le Seigneur. Et comment est-ce qu'on va trouver notre sentier? Qu'est-ce que la Bible dit? Ta parole est une lampe à mon sentier. C'est en cherchant et en sondant les Écritures que vous allez voir devant vous. Ça, c'est la direction que je veux suivre. Je refuse de suivre mon cheval. Mon cheval va me suivre. Amen? Première chose. Proverbe 29, 18 dit, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Dans la seconde, savez-vous qu'est-ce que c'est marqué? Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Comme moi, sur Tico, j'étais sans frein. Je ne pouvais pas le freiner, je ne pouvais pas l'arrêter. Lui, il partait et attache ta tuque, qu'on va partir ben raide, comme on dit. Hein? Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait pour ma vie. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour votre vie. Dieu ne veut pas qu'on soit sans frein. Il veut qu'on soit capable d'avancer, d'arrêter, de tourner et de suivre son sentier. Amen. Deuxième chose, dès que vous avez cette vision, remplissez votre cœur avec cette vision. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Concentrez pas trop juste sur les paroles qui sortent de votre bouche, mais concentrez davantage sur qu'est-ce que vous mettez dans votre cœur. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut saisir cette vision et dire, oui, ça c'est la vision de Dieu pour ma vie. Il veut que je sois libre. Il veut que je sois béni. Il veut que je sois en bonne santé. Il veut que je sois en amour avec lui. Il veut que je sois en amour avec mon épouse. Il veut que je sois un bon modèle pour les non-croyants. Il veut, voici qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Et je vais remplir mon cœur avec sa parole. Et une fois que mon cœur est rempli, ma bouche va parler. Amen. Luc 6, 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, il faut que je sache, Seigneur, c'est quoi ta vision pour ma vie? Où est-ce que tu veux que j'aille? Quel est le sentier que tu veux que je suive? Je vais diriger le cheval de ma vie là où tu veux que j'aille. Amen? Mais, Seigneur, je sais que pour arriver, il faut que mon cœur soit rempli de ta parole. Tu peux savoir, tu peux commencer à avoir une vision, par exemple, si vous êtes malade, d'une vie sans maladie. Mais il faut que vous méditiez ce que la Bible dit à ce propos. Sondez les Écritures. Commencez dans l'Ancien Testament, en Exode, où la parole de Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. J'éloignerai de toi la maladie. » Hein, Ésaïe 55 dit que par les meurtrissures de qui nous avons été guéris. Matthieu 4 qui dit, et 8 qui dit qu'il allait, il parcourait toutes les villes et les villages, il guérissait tous les malades et toutes les maladies. Amen. Jacques chapitre 5 et 14 qui dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Ils vont loin de l'huile, ils vont prier pour, et la prière de la foi va sauver le malade. Le Seigneur va le relever. S'il a commis des péchés, il sera pardonné. Vois-tu, il faut méditer ces choses. Comment? Tu prends ta Bible, tu l'ouvres, et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas assez de le lire. Il faut méditer, c'est-à-dire le dire. Dis ça à haute voix. Amen? Méditez ça. Si vous avez de la difficulté à aimer votre épouse ou votre mari, ou à démontrer votre amour, méditez en Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, c'est-à-dire que je suis patient. L'amour est plein de bonté. Seigneur, merci que je suis plein de bonté. Ça continue. Je supporte tout, Seigneur. Je pardonne tout. Médite ces choses. Déclare ces choses avec ta bouche. Tu dis, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer la direction de votre vie. Amen? Parce que si vous méditez ces choses, pas juste dans la chair, mais sous l'onction de l'Esprit. Si tu demandes d'abord, Seigneur, tu es à moi, c'est toi qui as inspiré cette Bible, tu habites à moi, enseigne-moi ces choses, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. On parlait de ça mercredi soir, il y a quelques semaines. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. Si tu médites ces choses et ces choses sont dans ton cœur. Si j'avais un ballon ce matin rempli de jus de pomme et quelqu'un venait avec une aiguille, je l'ai dit comme faux. Une aiguille? Oh non, c'est bon. J'ai toujours eu de la misère avec ce mot-là. J'avais de la difficulté avec ça, mais je peux le dire maintenant. Si quelqu'un vient avec une aiguille pour péter le ballon, c'est quoi qui va sortir? Jus de pomme. Si je mets de l'eau, c'est quoi qui va sortir? Si je mets du lait, c'est quoi qui va sortir? Vous êtes sûr? À 100%. Alors, si vous mettez la parole dans votre cœur, et quand les difficultés de la vie arrivent et quelqu'un ou quelque chose commence à picosser, c'est quoi qui va sortir? Si vous avez pris le temps de méditer la parole, c'est quoi qui va sortir? La parole. Est-ce que vous êtes sûr que la parole va sortir? Amen. Donc, vraiment, la clé, c'est de remplir votre cœur avec cette vision. Amen. Comment? En méditant la parole. Et numéro 3, veillez à ce que votre langue reste branchée à votre esprit. Parce qu'il y a un équilibre ici. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais, laisse-moi vous donner un avertissement. Même si votre cœur est rempli de la parole, vous vivez toujours dans la chair. Et si vous nourrissez trop votre chair va avoir une tendance à vouloir prendre le relève et prendre le dessus. Pardon. Donc, ma job, ma responsabilité dans la vie chrétienne, c'est d'avoir la vision que Dieu me donne pour ma vie, de remplir mon cœur de sa parole et de veiller que ce que je dis et le résultat de ma langue qui est attachée à mon esprit et pas ma langue qui est attachée à mon corps. Amen? Parce que vous aurez une tendance Vous tenez ferme pour la guérison, les symptômes viennent, les douleurs viennent, votre corps va vouloir dire, « Aïe, j'ai mal, je pense que je vais mourir. » Mais la meilleure chose à faire, c'est, « Ok, bon, est-ce que ça vient de mon esprit ou est-ce que ça vient de mon corps? Je vais veiller à ce que, qu'est-ce que je dis avec ma bouche, c'est ce qui vient de mon cœur. » Amen. Quand votre épouse ou votre mari fait quelque chose, ou ton enfant fait quelque chose qui te tape sur les nerfs. Il faut arrêter et dire, bon, ce qui va sortir de ma bouche, est-ce que ça vient de mon cœur? Est-ce que ma langue est attachée à mon esprit ou est-ce que ma langue est attachée actuellement à mon corps? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ou c'est un peu étranger qu'est-ce que je dis, hein? Non, on sait tous qu'est-ce que je suis en train de parler là. On a tous vécu ça, les moments où notre chair veut réagir. On ne veut pas réagir dans la chair, on veut agir dans l'esprit. Donc, saisissez la vision que Dieu a pour votre vie, remplissez votre cœur avec cette vision et veillez à ce que votre langue soit attachée à votre esprit, non pas à votre corps. Encore, c'est quoi la meilleure chose à faire? En Corinthiens 14 dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Mais mon intelligence demeure stérile. Donc, si vous avez de la difficulté, si vous ressentez que la chair commence à bouillir, reculer deux pas, prie dans l'esprit. Amen? Laisse ton cœur soit attaché à nouveau à ta langue. Alléluia! Car celui qui est capable de tenir sa langue, est capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Alléluia. On va se lever debout ce matin. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Alors, c'est pas qu'est-ce que tu sais qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Donc, je t'encourage à prendre ce message, le méditer dans n'importe quel domaine, là où vous avez un besoin. Guérison, prospérité, marche d'amour, la joie à la place de la dépression, les ruptures dans les relations, peu importe le problème, cherchez, sondez les Écritures, méditez la parole de Dieu, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit, ça ne veut pas dire que vous avez besoin forcément d'avoir le livre sous ton nez. Prends le temps, une fois par jour au moins. Surtout le matin, c'est bon. Et mettez la parole, mettez le livre sous ton nez, mais tout au long de la journée, confessez ces choses, méditez ces choses. Et vous allez voir que vos paroles vont changer. Et parce que vos paroles sont différentes, votre vie sera différente. Amen. Oh, Shaman Elisiti. Merci, Seigneur. Avec tous les yeux fermés. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Je ressens vraiment la miséricorde de Dieu est ici ce matin. On va demander pardon pour toutes les paroles qu'on a prononcées qui sont malsaines. Il n'y a aucune culpabilité, aucune condamnation. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de se repentir, de changer de direction, de reprendre le contrôle de notre langue, de rediriger notre vie. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste savoir s'il y a quelqu'un ici, avec tous les yeux fermés. Peut-être vous n'avez même pas pris la première décision, c'est de confesser avec ta bouche que le Seigneur Jésus est ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur. Tu n'as pas encore cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, comme j'ai fait l'engagement tous les dimanches matins de donner cette invitation, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui entend ma voix et qui sait dans ton cœur de cœur que tu n'es pas encore sauvé de tes péchés. Tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel. Tu n'es pas certain que tu as une place réservée pour toi au paradis. Aujourd'hui, sache que le salut, c'est un don gratuit. Tu ne peux rien faire pour mériter le salut. Il faut tout simplement le recevoir par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, « Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Je veux sortir d'ici sachant. » Je ne t'invite pas à devenir membre de cette église locale. Ce n'est pas la chose qui est la plus importante.
Il y a beaucoup de bonnes églises. Mais qu'est-ce que je t'invite à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Et à par la suite, il va te montrer c'est où la meilleure église pour toi pour grandir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je veux que tu pries avec moi. Je ne vais pas t'embarrasser, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main? Il y a une personne, deux personnes, trois personnes ce matin. Alléluia. Trois personnes. Alléluia. Je vais demander à tout le monde qui a levé la main de prier cette prière avec moi, mais tous les autres qui sont ici présents, d'élever votre voix aussi. On va les aider à prier ce matin. La décision que tu prends, c'est une décision importante. Tu décides aujourd'hui de suivre Jésus. Pas dans ta force, mais avec sa force, avec son aide. Aujourd'hui, tu es en train de dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur, et je crois que Jésus a versé son sang pour moi. Et en priant cette prière, tu vas accepter à l'obéir le restant de tes jours. Il a réservé pour toi des bénédictions. Mais ça ne veut pas dire que la vie serait toujours facile ou la vie serait toujours rose. La vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. Mais quand on fait face aux problèmes, on n'est pas seul. On a quelqu'un avec qui on peut faire face. Et on a la promesse qu'on va toujours vaincre et toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. C'est pas tout le monde qui sera content de ta décision. Il y a des personnes qui vont penser que, oh, c'est un peu fou. Comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus existe? Mais toi, dans ton cœur, vous avez levé votre main. Laisse-moi voir vos mains encore une fois, ceux qui ont levé la main. Oui. En levant la main, vous dites, oui, je suis prêt à suivre Jésus. Et on va prier cette prière maintenant. Juste répéter cette prière de tout votre cœur. Père Céleste, je confesse avec ma bouche et je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Et je confesse qu'il est mon sauveur. Il est mon maître. J'ai besoin de toi. Merci qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Je recommence une vie nouvelle. Je suis pur. Je suis lavé. Tout ce que j'ai fait dans le passé, tu l'as jeté dans la mer d'oubli. Tu t'en souviens plus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je te remercie car je suis sauvé. Je suis ton enfant et je vais te suivre. Je vais t'obéir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces âmes qui viennent de donner la vie au Seigneur? Alléluia.